Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer, l'occasion pour nous de faire le point sur les avancées en cancérologie, thérapie ciblée, immunothérapie, nanomédicaments. En France, un cancer sur trois était guéri il y a 20 ans, aujourd'hui c'est un cancer sur deux qui l'est, et avec les thérapies ciblées, on devrait d'ailleurs pouvoir faire beaucoup mieux. Mais ces thérapies ciblées sont chères, pas toujours disponibles, et les patients ne sont pas forcément informés des essais cliniques en cours. On en parle avec le docteur Christophe Letourneau, qui est responsable des essais précoces et de la médecine de précision à l'Institut Curie, le professeur Fabrice André, qui est cancérologue et directeur d'une unité de recherche INSERM, il travaille à l'Institut Gustave Roussy, et devrait nous rejoindre le docteur Marie Dutreix, qui dirige l'équipe de recherche réparation, recombinaison et cancer à l'Institut Curie. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et dans la deuxième partie de cette émission, on écoutera le témoignage d'un patient qui a bénéficié, qui bénéficie d'ailleurs encore en ce moment, de ces thérapies ciblées contre le cancer.
RFI.
Docteur Christophe Letourneau et professeur Fabrice André, bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Tout d'abord, peut-être quand on parle de thérapies ciblées, on parle de quoi, docteur Christophe Letourneau?
Alors, si vous voulez, on parle de thérapie ciblée depuis une vingtaine d'années à peu près. Lorsqu'on a découvert dans certaines cellules tumorales de certains cancers, finalement, des altérations moléculaires que l'on pense être à l'origine, finalement, du développement des cellules cancéreuses. Donc, ces thérapies ciblées sont des médicaments qui vont cibler ces altérations moléculaires. En réalité, tout médicament qu'on utilise aujourd'hui en oncologie, que ce soit la chimiothérapie ou même les traitements anti-hormonaux, sont des thérapeutiques ciblées puisqu'ils ont une cible. Voilà, alors...
Est-ce que ça veut aussi dire, finalement, traitement adapté à chaque patient ?
Alors, effectivement, on arrive dans cette voie de recherche, mais aujourd'hui, la plupart des médicaments, y compris les thérapeutiques ciblées, sont développés par organe, c'est-à-dire par type de cancer. Alors, parfois sur la présence ou sur l'absence d'une anomalie moléculaire, mais aujourd'hui, on développe encore ces thérapies ciblées par type de cancer, et c'est pas encore personnalisé pour un individu bien précis.
Et l'évolution va être pas simplement par type d'organe touché, mais par type de tumeur, c'est ça en fait?
Oui, alors si vous voulez, effectivement, on se dirige, on part de la classification de l'organe à l'examen anatomopathologique, c'est-à-dire l'aspect des cellules sous le microscope, et puis à un degré encore plus avancé, qui sont les altérations moléculaires, donc au niveau soit de l'ADN, de l'ARN ou des protéines.
Le deuxième mot que j'avais envie qu'on explique avant de démarrer vraiment sur les essais que vous menez tous les deux, c'est la question de l'immunothérapie. Qu'est-ce qu'on met sous ce terme-là? Alors pour nous, l'immunothérapie, c'est la vaccination. On voit ça beaucoup sur des maladies infectieuses, mais alors en cancérologie, ça veut dire quoi?
Alors en cancérologie, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, en tant que maladie, diminue la capacité du système immunitaire à se défendre.
C'est-à-dire qu'il ne se défend pas contre les mauvaises cellules.
Exactement. Et donc le principe aujourd'hui, en 2015, de l'immunothérapie va consister à donner des médicaments, là encore ciblés, pour revenir à la question de tout à l'heure, qui vont activer le système immunitaire et lui permettre de détruire les cellules cancéreuses. Donc ça, c'est la forme d'immunothérapie qui, aujourd'hui, est la plus en vogue et la plus développée. Mais comme vous mentionnez précédemment, il existe aussi des stratégies qu'on appelle de vaccination contre le cancer ou contre les agents qui donneront ultérieurement le cancer, exemple le HPV,
le
virus de l'hépatite B, qui sont des formes de vaccination qui sont des préventions contre des cancers ultérieurs. Donc il y a deux types d'immunothérapie, hein, la vaccination et l'activation du système immunitaire qui est affaibli par l'existence du cancer.
Et aujourd'hui, quand on parlera immunothérapie, on parlera plutôt d'ailleurs de cette immunothérapie quand le cancer a été diagnostiqué et pour empêcher l'évolution de la maladie. C'est pas pour l'empêcher d'arriver. On est d'accord,
Fabrice
André? J'aimerais bien qu'on commence à parler d'abord de vos études. Vous cherchez, si j'ai bien compris, à analyser les anomalies génétiques qui ont entraîné un cancer, c'est ça? Expliquez-nous un peu plus précisément.
Alors, en fait, le principe est le suivant. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Letourneau, donc le cancer est la résultante d'anomalies de molécules. D'accord. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 molécules qui vont entraîner le cancer. Donc l'enjeu dans ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est pouvoir identifier chez chaque patient ou chaque patiente quelle est l'anomalie ou les anomalies, d'accord, qui sont responsables de la progression du cancer. Et une fois qu'on les a identifiées, ben on donne un traitement entre guillemets sur mesure. Donc dans cette explication, le mot clé qui est vraiment important, c'est identifier. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la recherche clinique en fait était basée sur le médicament. Là actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est identifier l'anomalie responsable du cancer. Et je dirais que c'est à peu près le point commun entre les différents programmes actuels.
Alors, et identifier, donc on va revenir un peu plus précisément sur identifier cette anomalie, ça veut dire des examens biologiques, j'imagine, mais quel type d'examen biologique et comment ?
Donc actuellement, ce qui est fait, il y a différents types d'examens biologiques. On va dire que le plus simple, c'est de chercher une protéine. Donc c'est ce qu'on fait par exemple dans le cancer du sein, où on cherche les récepteurs aux hormones, ou notre protéine qui s'appelle HER2. Ça, c'est le plus simple. On peut monter un petit niveau de complexité en cherchant à analyser une ou deux ou trois mutations au niveau de l'ADN. Donc ça, c'est ce qui est fait actuellement dans 28 qu'on appelle plateformes en France, hein, qui sont des plateformes publiques et qui permettent de faire ce deuxième niveau de complexité qui est analyser de façon simple l'ADN. Et après, il y a un troisième niveau de complexité qui est analyser plusieurs centaines ou plusieurs milliers de séquences d'ADN, c'est-à-dire de gènes. Et là, c'est un troisième niveau de complexité qui aujourd'hui est fait dans certains centres, d'accord, et qui a tendance quand même et qui a vocation, on va dire, à se généraliser sous réserve qu'on démontre que ça sert à quelque chose.
Et cette analyse, elle est faite à partir de la tumeur, des cellules de la tumeur, ou est-ce qu'elle peut être envisageable d'être faite à partir d'analyses sanguines ? C'est tout l'enjeu.
Alors, aujourd'hui, c'est fait à partir de la tumeur, d'accord ? Mais à terme, il n'est pas impossible que ça puisse être fait à partir du sang. Ce qui est important quand même, mais qu'on peut-être rediscutera plus tard, c'est quel est le pourcentage de patients qui ont accès à l'innovation. C'est-à-dire que parler d'innovation pour dire il n'y a que 3 patients dans le monde qui pourront en bénéficier, ça n'a aucun sens. Donc la vraie question, ce qui est derrière votre question, c'est l'accès au tissu, la tumeur ou le sang, est un enjeu important parce que ce qu'on cherche, c'est qu'un maximum de patients puissent avoir accès à ces analyses moléculaires. Hein, donc c'est sûr que si on peut faire à partir du sang, peut-être que ça simplifierait les choses et peut-être qu'il y aurait un plus grand nombre de patients en France, mais aussi dans le monde, qui pourraient avoir accès à cette innovation, parce qu'il est toujours plus facile d'avoir une prise de sang que d'aller chercher une tumeur qui n'est pas toujours facile à analyser.
Et il vous faut combien de temps pour donner les résultats de ces analyses, pour faire ces analyses ? Alors vous allez me dire, évidemment, ça dépend justement de ce qu'on recherche, il y en a certainement sur lesquels c'est plus simple, mais en gros, ça va de combien à combien ?
Je dirais qu'aujourd'hui, un ordre de grandeur, mais je pense qu'il est possible d'avoir une analyse de plusieurs dizaines de gènes, ce qui est déjà très bien, en une quinzaine de jours à peu près.
C'est ça, donc c'est pas si long que ça. Je voudrais qu'on vienne plus précisément à l'étude que vous menez. Il y a une étude SAPHIR 1 et SAPHIR 2, c'est ça ouais. Donc, qui est ce que vous avez commencé à nous expliquer ? On en est où de ces études ?
Alors, l'étude SAPHIR, donc, c'est une étude qui cherche à identifier chez chaque patiente qui a un cancer du sein, là où les anomalies moléculaires qui entraînent la progression du cancer. Et ensuite, à donner un traitement ciblé, un traitement qui bloque cette anomalie. Donc on va se focaliser sur SAPHIR 2, si vous voulez, parce que c'est une étude qui est assez illustrative, dans le sens où c'est une étude qui compare un traitement standard, c'est-à-dire le traitement qui est actuellement la référence,
c'est-à-dire chimio, radiothérapie,
chimiothérapie en l'occurrence, à un traitement donné en fonction de l'analyse du génome.
Avec la chimio aussi ? C'est-à-dire c'est des patients
que
qui ont chimio ciblée. Ou que thérapie ciblée ? Que voilà. Thérapie ciblée, pas de chimio.
Alors, les patientes qui ont de la chimio, ce qu'on appelle un traitement standard, et à ce moment-là, ce groupe est comparé à un groupe de patientes qui a une thérapie ciblée donnée en fonction de l'analyse du génome. L'existence de cette étude a un certain nombre d'implications. D'abord, premièrement, ça veut dire qu'il n'est pas prouvé que l'analyse de multiples gènes a déjà un bénéfice, puisque c'est ce qu'on essaie de chercher dans l'étude. On essaie de chercher à prouver que parce qu'on fait
cette analyse,
on améliore le pronostic des patients, premièrement. Deuxièmement, c'est une étude donc, qui a lieu en France sur une vingtaine de centres, donc c'est un vrai effort coopérateur entre les différents centres et qui traduit un certain dynamisme en recherche. Et troisième élément, l'implication, si elle est positive, si cette étude démontre que parce qu'on a séquencé, on a analysé les gènes, on apporte un bénéfice, donc l'implication c'est que ensuite de plus grosses études vont être mises en place pour, à terme, que cette approche qu'on appelle médecine de précision et de séquençage devienne le standard de traitement pour les patients et les patientes qui ont accès à cette technologie.
Vous l'avez dit, sur cette recherche, il y a 20 centres en France qui travaillent ensemble. Ça veut dire combien de patientes inclus dans cet essai ?
En tout, on estime qu'il y aura environ 600 patientes porteuses d'un cancer du sein qui auront l'analyse du génome. Et ensuite, les patientes qui seront traitées, on estime que c'est environ 240.
J'imagine quand même que si vous menez cet essai, c'est que vous pensez que les thérapies ciblées peuvent avoir un plus par rapport à la chimio. C'est quand même bien ça le postulat de départ.
Exactement. On en est...
J'ai quelques questions de bon sens.
On en est intimement convaincu, mais votre question est très importante parce que entre l'intime conviction et la preuve, il y a une différence majeure. Et nous, en tant que médecins chercheurs et même en tant que médecin tout court, on ne peut appliquer à nos patients et nos patientes à large échelle que ce qui est prouvé. Hein, si on commence à utiliser ce pourquoi on a une intime conviction, et ben à ce moment-là, on commence
pas.
À faire parfois un peu n'importe quoi, et ça devient embêtant quand c'est fait à large échelle.
On va continuer à parler de tous ces essais qui sont menés et des avancées en cancérologie.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des avancées en cancérologie avec le professeur Fabrice André de l'Institut Gustave Roussy et le docteur Christophe Le Tourneau de l'Institut Curie. Docteur Christophe Le Tourneau, on a parlé là longuement d'un premier essai sur des femmes atteintes de cancer, un essai Saphir. D'ailleurs, vous allez aussi nous parler de cancer du sein, je pense, avec un essai Shiva. Expliquez-nous ce que vous recherchez.
Alors, l'essai Shiva est basé à peu près sur le même principe que l'essai Saphir qu'a présenté le professeur André. À la différence que dans cet essai sont inclus des patients qui ont tout type de cancer, si vous voulez.
Pas que cancer du sein, justement.
On ne se focalise pas uniquement sur un cancer. L'hypothèse de base, si vous voulez, c'est que si on retrouve une altération moléculaire dans un cancer, s'il existe une thérapeutique ciblée qui est commercialisée mais dans un autre cancer, il est peut-être pertinent de donner cette thérapeutique ciblée à un patient qui a justement l'autre cancer. Donc cet essai s'adresse à des patients qui ont tout type de cancer, des patients qui ont déjà eu tous les traitements standards, si vous voulez, et puis qui malheureusement n'ont pas marché ou alors ne marchent plus.
Donc ils sont en récidive, entre guillemets.
Ils sont en récidive, avec des lésions qui ont diffusé dans le corps, que ce soit au niveau du foie, du poumon, etc. Et donc, chez qui on a déjà donné les traitements qu'on appelle standards.
Chimiothérapie, donc, radiothérapie. Voilà.
Chimiothérapie, radiothérapie, et puis tous les traitements chirurgicaux disponibles, bien entendu. Et donc là, il s'agit de faire une cartographie, si vous voulez, de la tumeur des patients, afin de rechercher des anomalies moléculaires, comme dans Saphir 02, et de donner la thérapeutique ciblée qui va cibler ces anomalies selon un algorithme que nous avons défini. Alors c'est un essai comparatif, et là encore, il y a un tirage au sort entre le traitement qu'on fait d'habitude dans tous les hôpitaux et cette thérapeutique ciblée qui correspond à l'anomalie moléculaire qui était détectée.
Et là, il y a combien de patients inclus dans cette étude ?
Alors, le recrutement est terminé. Il y a eu plus de 700 patients qui ont été inclus dans cette étude dans plusieurs centres en France et presque 200 patients qui ont été traités, c'est-à-dire chez qui il y a eu un tirage au sort entre ce qu'on fait d'habitude et puis cette thérapeutique ciblée qui correspond à l'anomalie.
C'est une étude qui a montré un peu l'avance de la recherche en France et surtout qui n'a été, entre guillemets, possible que parce que justement, il y a un réseau assez important de traitement de cancer, c'est ça ?
Alors, cette étude est rendue possible en France pour plusieurs raisons. Déjà parce que en France, nous avons la chance quoi, d'avoir l'infrastructure pour développer ce genre d'études. L'infrastructure pour tout ce qui sont les analyses moléculaires, donc le séquençage à haut débit, mais également l'infrastructure en termes de bioinformatique, c'est-à-dire d'ingénieurs qui sont là pour trier les milliers de données qui arrivent issues de l'analyse de la tumeur des patients, afin d'avoir un compte-rendu qui soit intelligible pour des médecins. Donc, il faut qu'il soit simple.
Est-ce qu'il y a une étude équivalente menée ailleurs dans le monde ?
Alors, une étude un peu similaire a démarré aux États-Unis en 2014, là, donc l'année dernière, avec une étude comparative chez les patients qui ont tout type de cancer, également réfractaires au traitement standard. Alors, pas avec tout à fait les mêmes médicaments, etc., mais sur le même principe, oui.
Alors que vous, Shiva, ça a démarré quand ?
Ça a démarré en 2012.
C'est ça, donc ça montrait quand même une certaine avancée française. Ce que j'avais cru comprendre en préparant cette émission, c'est qu'on nous envie un peu d'avoir pu démarrer cette étude.
Non, c'est vrai. Je crois qu'avec les travaux du professeur André et puis l'étude Saphir, qui a vraiment été pionnière dans ce domaine-là, et puis les études Saphir 02, Shiva, et puis d'autres études. Hein. Effectivement, je pense qu'on peut dire que la France est bien placée hein, dans ce type de recherche.
Ce que veut dire votre étude en étudiant finalement ces thérapies ciblées sur différents cancers, sur différents organes, ça prouve qu'on peut traiter un cancer, je ne sais pas, je donne un exemple, hein, un cancer du sein et un cancer du rein avec un même médicament.
Oui, alors, c'est-à-dire que par exemple, on a des patients qui ont un cancer de la gorge et qui sont traités avec un médicament qui normalement n'est commercialisé que dans le cancer du rein. Voilà, donc c'est un médicament auquel les patients de l'étude n'auraient pas eu accès sinon, puisque pas commercialisé.
Et j'imagine, professeur Fabrice André, que ça donne, dirais, plus d'importance à ce métier d'oncologue médical, de cancérologue, qui n'est donc pas spécialisé dans un organe, mais plutôt dans une pathologie générale de cancérologie, non ? C'est ça ?
Oui, vous avez raison. À la fin quand même, faut être honnête, je veux dire, à la fin quand même, ce que le cancérologue est censé faire, c'est suivre des recommandations de traitement dictées par soit des agences de régulation, soit par des sociétés savantes. Donc quand même,
et les sociétés savantes, elles sont pour le coup plus sur un organe, c'est ça que vous allez dire ?
Elles sont plus sur un organe, mais à terme, la société savante, c'est-à-dire ce qui dicte les recommandations, peut très bien être orienté sur des anomalies moléculaires. C'est sûr, comme l'a décrit M. Le Tourneau, et comme vous l'avez perçu, on est en train de suivre un mouvement qui consiste à dire que avant, on traitait en fonction de l'organe et de plus en plus, on va traiter en fonction de ce qu'on appelle le profil moléculaire, c'est-à-dire quelles sont les anomalies moléculaires. À la fin, la décision de traiter ou pas en fonction d'un médicament est dictée par des recommandations et sont censées être homogènes à peu près sur tout le territoire et sur tous les patients. L'idée, si vous voulez, que l'individu, le médecin, et là c'est ce que je parle pour moi, c'est, décide, à mon sens, c'est une idée qui est quelque part un petit peu dangereuse parce que on n'est pas certain que ça assure à tous les patients et partout le même niveau de décision. Donc personnellement, je suis un grand partisan des décisions faites en fonction de recommandations dictées par soit des agences de régulation, soit par des sociétés savantes.
Et de décisions aussi communes, hein, vous n'êtes pas tout seul à décider.
Décisions communes, multidisciplinaires. Oui. Après, le médecin, la différence entre les médecins se fait aussi au niveau de la discussion avec le patient, l'empathie, explication au patient, suivi du patient, compréhension des effets indésirables, gestion au quotidien, tout ça. Mais la décision du traitement anticancéreux me semble devoir continuer à être dictée par des recommandations.
On reviendra dans la deuxième partie sur la question des effets indésirables, parce que vous menez aussi une étude là-dessus. Juste un mot par rapport à ce que j'ai demandé au docteur Le Tourneau, sur la question de la France assez en avance et en pointe sur cette recherche, grâce à un réseau de traitement de cancérologie. C'est quand même important de le dire. Votre essai, ça en est vraiment le cas.
Oui, je pense que ce qui est très important et qu'on nous envie partout dans le monde, c'est l'existence, donc en France, d'une politique sur le cancer. À la fois sur le traitement, la prévention, la recherche. Et ceci permet donc une coordination des différents acteurs. Et donc en ce qui concerne le thème de recherche qu'on a avec M. Le Tourneau, ce qui se passe, c'est que donc l'Institut du cancer a permis la mise en place donc de plateformes de génomique qui font ces tests de séquençage gratuits pour les patients. Et ça, c'est unique au monde.
Et qui vous permet de travailler ensemble. On y revient dans la deuxième partie de cette émission. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.
7 milliards de voisins.
Emmanuel.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des avancées en cancérologie à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, thérapie ciblée, immunothérapie. On en parle avec le docteur Christophe Le Tourneau, qui est oncologue médical à l'Institut Curie, responsable des essais précoces et de la médecine de précision, et le professeur Fabrice André, qui est cancérologue, directeur de recherche INSERM et qui travaille à l'Institut Gustave Roussy. Et vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 33 1 84 22 75 75, ce qui nous permet de découvrir que ces thérapies ciblées sont aussi disponibles en Afrique. Et on a au téléphone Jean-Luc Pétier, on l'a bien au téléphone si on peut me faire signe de l'autre côté de la vitre, merci beaucoup, qui a eu un cancer du rein à 50 ans en 2008, il bénéficie aujourd'hui de thérapies ciblées. Jean-Luc Pétier, bonjour.
Bonjour à tous, oui.
Merci vraiment beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour nous parler des traitements dont vous bénéficiez. Quels sont les traitements d'abord dont vous avez bénéficié au tout début de votre maladie en 2008 et quels sont les traitements dont vous bénéficiez aujourd'hui ?
Alors, en 2008, en fait, j'ai subi une opération, une néphrectomie, donc ablation totale du rein, à la suite de laquelle j'ai pas eu de traitement immédiatement, mais juste une surveillance. Six mois après cette opération, et suite à des examens, on m'a trouvé un nodule pulmonaire qu'on a dû également opérer. Et à la suite de cette deuxième opération, donc c'est là que j'ai commencé une thérapie ciblée, parce qu'il n'y a pas réellement de chimiothérapie pour la pathologie du rein.
Donc dès 2009, vous avez bénéficié de thérapie ciblée ?
Voilà, tout à fait.
Et alors, c'est avec plusieurs traitements différents, c'est ça ?
Alors non, à chaque fois, je prends une seule molécule, un médicament. Donc le premier que j'ai pris, c'est le Sutent, hein, c'est le traitement de première ligne classique.
Et au bout d'un moment, ce traitement n'était plus efficace et on vous en a donné un autre, c'est ça ?
Bon, voilà, c'est ça. En fait, il a été efficace pendant un certain temps, donc on a stoppé. On a continué à surveiller. Et 2 ans après, j'ai fait une nouvelle rechute, donc cette fois au niveau des os, en 2011, voilà. Et donc ensuite, en fait, c'est une alternance de chirurgie, radiothérapie et thérapie ciblée qui jusqu'au jour d'aujourd'hui me préserve une qualité de vie de bon niveau.
Jean-Luc Pétier, vous restez avec nous hein, parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser, mais je voudrais faire réagir mes invités. Ce que je comprends bien du coup, c'est que l'effet de ces thérapies ciblées est limité dans le temps. On est obligé, je ne sais pas lequel des deux veut répondre, vous faites signe tous les deux, Fabrice André. C'est limité dans le temps, ça marche pendant un temps, puis après il faut essayer autre chose, c'est ça ?
C'est très variable selon les patients. Mm-hmm. Donc pour certains patients, c'est très limité dans le temps, pour d'autres patients, c'est beaucoup plus allongé dans le temps. Avec là une thématique de recherche qui est de savoir comment identifier les patients qui vont bénéficier plus ou moins de ce concept qu'on appelle thérapie ciblée. Mais je crois que là, l'histoire de Jean-Luc est quand même assez illustrative hein, de ce qu'on appelle la chronicisation
de la maladie cancer,
où le médecin change successivement les thérapies ciblées et avec des perspectives devant nous qui sont intéressantes en termes de nouvelles thérapies qui vont arriver.
Quels sont les effets secondaires, Jean-Luc Pétier, de ces traitements ?
Les effets secondaires, ils sont le plus souvent des problèmes de tension artérielle hein, qu'il faut surveiller très régulièrement, et voire même prendre un médicament pour contrebalancer la tension, enfin, réduire. Il y a des effets secondaires au niveau de la peau qui peuvent être importants. Il y a une fatigue aussi générale qui s'installe souvent en début de traitement, mais qui s'estompe au fur et à mesure du temps. Et malgré tout, j'ai pu poursuivre mon activité professionnelle, même si c'est pas une activité physique, bien sûr, mais plutôt intellectuelle. J'ai pu continuer mon activité professionnelle à temps partiel, quoi.
Vous êtes ingénieur, hein, je crois, c'est ça ?
Oui, voilà.
Je voudrais vous faire réagir, Fabrice André, sur ces questions d'effets secondaires, parce que vous menez aussi une étude. Vous restez encore avec nous, hein, Jean-Luc Pétier, parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser. Mais Fabrice André, vous travaillez sur ces questions d'effets secondaires. Vous menez des études là-dessus.
Oui, il y a une étude donc, qui a été lancée suite à donc, ce qu'on appelle les investissements d'avenir. Donc, c'est une étude financée par, via le ministère de la Recherche en France, qui est une épidémiologique qui a lieu spécifiquement au cancer du sein, mais dans ce cas, le cancer du sein, ce qu'on appelle un modèle, c'est exportable à d'autres pathologies. Et le principe de l'étude, c'est d'explorer les effets indésirables, de les quantifier dans une population de patientes, qui c'est 20 000 patientes qui ont un cancer du sein. L'objectif étant donc de quantifier les effets indésirables et de prédire quelle patiente va faire un effet indésirable à terme, et aussi identifier de nouveaux besoins médicaux et comment on traite ces effets indésirables, parce que la gestion des effets indésirables, finalement, c'est quand même un petit peu le parent pauvre de la recherche en cancérologie, et j'aurais tendance à dire globalement de la médecine.
Quand même. C'est ça, on cherche à vous soigner, on ne cherche pas trop à savoir si vous supportez le traitement, ce qui est très bien, on est d'accord, mais les effets indésirables pour les patients au quotidien...
C'est un problème quotidien auquel il faut s'attacher, mais mieux guérir les patients est quand même un challenge très important.
Juste sur cette étude, il y a une chose, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris, est-ce que c'est les effets secondaires sur des chimio-radiothérapies classiques ou aussi sur ces thérapies ciblées ?
Alors c'est surtout sur les traitements qu'on appelle conventionnels, qui sont chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, mais comme il y a des thérapies ciblées qui arrivent dans le cancer du sein, de fait, on étudie aussi les effets indésirables des thérapies ciblées. Je dirais que ce qui est important, c'est l'effet indésirable, mais c'est aussi l'impact de l'effet indésirable. Hein, parce que l'effet indésirable...
Si on arrive à le soigner, entre guillemets...
Très bien, mais aussi ce qu'il faut voir, c'est que l'effet indésirable, par exemple, avoir du mal à bouger... un doigt, par exemple, n'aura pas la même conséquence chez un pianiste ou chez une autre profession, par exemple. Donc, il faut comprendre l'impact des effets indésirables.
Moi, j'avais cru comprendre que ces thérapies ciblées avaient moins d'effets secondaires. Et du coup, j'étais un peu surprise que Jean-Luc Pétier nous parle d'effets secondaires des thérapies ciblées. Il y en a quand même, effectivement.
Complètement. Donc, je pense que l'histoire de Jean-Luc est vraiment illustrative. Hein. Je pense qu'on peut le remercier parce que c'est vraiment l'histoire illustrative d'un patient actuellement 2015 traité par thérapie ciblée. C'est-à-dire, on chronicise la maladie, mais en même temps, il y a des effets indésirables qui sont parfois assez sérieux. Et là, on a entendu donc l'hypertension, la fatigue. Et la fatigue est un effet indésirable auquel il faut vraiment s'attacher. Donc, les thérapies ciblées, ça ne veut pas dire thérapie non toxique. Hein, thérapie ciblée, ça veut dire, c'est une stratégie de traitement contre le cancer qui consiste à cibler spécifiquement une protéine qu'on veut bloquer. Mais cette protéine, elle peut très bien être aussi exprimée, présente dans les tissus normaux, et de fait, il y aura un effet indésirable. Donc thérapie ciblée ne veut pas dire traitement non toxique. C'est une nouvelle stratégie de traitement contre le cancer.
Jean-Luc Pétier, j'ai encore deux questions à vous poser. D'abord, sur le dernier traitement que vous suiviez, combien coûte-t-il ? Est-ce que vous le savez ou pas ?
Aux alentours de 3000 euros par mois.
Donc très cher, ce qui veut dire ça fait du 36 000 euros l'année. Je voudrais vous faire réagir là-dessus, docteur Christophe Letourneau. Ce sont des médicaments qui coûtent très cher, ces thérapies ciblées.
Oui, alors aujourd'hui, les thérapies ciblées sont essentiellement commercialisées chez des patients qui n'ont plus forcément accès à la chirurgie ou à la radiothérapie, qui sont des traitements locaux, quoique il y a des exceptions, comme le disait notre patient. Mais donc, on est dans le cadre d'une maladie où il va falloir contrôler la maladie le plus longtemps possible. Et effectivement, il y aura une succession de traitements parce que les cellules cancéreuses, finalement, développent des résistances aux traitements qu'on leur donne. Et c'est la raison pour laquelle on doit changer de traitement et que des patients peuvent avoir 2, 3, 4 ou 5 traitements. Ces traitements peuvent être donnés pendant longtemps, comme c'est le cas de Monsieur Pelletier, sur plusieurs années. Et donc, le coût de ces traitements, en particulier des thérapies ciblées, peut-être un problème. Alors, c'est une bonne nouvelle qu'on les donne sur plusieurs années, parce que ça veut dire qu'ils fonctionnent. Mais d'un autre côté, c'est des traitements qui sont onéreux et ça peut poser d'autres problèmes
de santé publique. Mais franchement, pourquoi sont-ils aussi chers ?
Alors, bon, le prix des médicaments est fixé au niveau du gouvernement hein, et avec l'industrie pharmaceutique. Mais c'est vrai que dès qu'il y a un nouveau mécanisme d'action pour un médicament, dès que c'est un premier médicament dans une nouvelle classe, c'est l'occasion de demander un remboursement un petit peu plus élevé pour justifier toute la recherche qu'il y a eu en amont avant le développement de ces médicaments.
Mais honnêtement, la recherche fondamentale, elle est publique, elle est faite entre autres par vous. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Fabrice André ?
Non, je pense que ce qu'il faut bien voir d'abord, c'est que pour un médicament qui monte en efficacité, il y a eu une dizaine, voire plusieurs dizaines d'échecs, et qu'il faut assumer le coût de ces échecs faits dans les compagnies. Deuxièmement, si la recherche fondamentale est peut-être publique dans certains cas, elle peut aussi être dans le cadre de compagnies, mais le coût de la recherche clinique est souvent sous-estimé par nos concitoyens, ou même nous, par nos pairs. Le coût du développement d'un médicament en termes de recherche clinique est un coût qui est colossal, parce qu'il exige une qualité extrêmement haute, des infrastructures, des essais sur plusieurs années, partout dans le monde. Après, moi, en tant que médecin, je dirais que j'ai pas à commenter en tant que médecin le coût du médicament.
Vous pensez pas que l'industrie pharmaceutique abuse un peu là-dessus? Jean-Paul Vernant, hein, qui a coordonné, ouais, qui a préparé le programme cancer qui est actuellement mis en place, s'est prononcé en disant mais ça va plus être possible de continuer comme ça, l'industrie pharmaceutique abuse.
Alors, en fait, ce commentaire fait appel à deux notions différentes. C'est est-ce que ça va être possible
de continuer à rembourser?
Voilà. Mmh. Et la deuxième commentaire qui, à mon avis, doit être déconnecté, c'est l'industrie pharmaceutique abuse. Mmh. Je pense que moi, j'ai pas commenté, je connais pas le business des compagnies pharmaceutiques. Simplement, ce sont des négociations qui ont lieu entre des compagnies et certaines agences
françaises, l'État qui vous a demandé, oui, vous avez raison.
Nous, en tant que médecins, ce qu'on voit auprès de nos patients, c'est que quand on peut avoir accès à ces médicaments, ils apportent un bénéfice à nos patients et ils changent la vie de nos patients. Après, je suis pas sûr qu'on puisse discuter sur dans quelle société on vit et est-ce que le monde capitaliste tel qu'il est fait a une pérennité.
Vous voyez, ce sera un autre débat. On est d'accord, mais on pourrait l'avoir.
La question du médicament, derrière cette question, il y a dans quel mode de société on vit, et dans ce cas-là, vous voyez,
on peut aller plus loin. Et Jean-Paul Bernard, dans ce qu'il dit, va plus loin d'ailleurs.
Voilà, donc je pense que c'est pas le thème aujourd'hui de l'émission.
En Grande-Bretagne, il y a quand même certains médicaments de ce type qui sont plus remboursés. Ça pose un vrai problème d'accès. Vous avez peut-être envie de réagir aussi, docteur Christophe Letourneau.
Oui, tout à fait. Alors, c'est difficile pour nous, médecins, effectivement, de juger si le prix d'un médicament est juste ou pas.
Mais d'abord aussi parce que vous travaillez avec l'industrie pharmaceutique. J'aurais pu vous demander d'ailleurs, en début d'émission, vos liens d'intérêt, avec qui vous travaillez.
Bien entendu, on travaille avec l'industrie pharmaceutique parce que l'industrie pharmaceutique nous confie ces médicaments pour les développer et puis pour les donner à des patients. Mais c'est une étape, effectivement, indispensable du développement du médicament. Donc, il y a des structures de recherche clinique comme à l'Institut Curie, à l'Institut Gustave Roussy, où effectivement, on nous confie des molécules pour les développer. Et donc, de facto, nous avons des conflits d'intérêts avec ces...
Vous travaillez avec eux, tout simplement.
Bien entendu. Alors maintenant, un point qui est quand même important, c'est que le bénéfice des thérapies ciblées n'est pas le même pour toutes les thérapeutiques ciblées. Et donc là, on a parlé un petit peu de l'herceptine, qui est une thérapie ciblée qui a réellement changé le pronostic des patients qui ont un cancer du sein HER2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on espère presque que les patients aient cette protéine HER2 parce qu'il existe ces traitements qui ciblent HER2.
Donc ça vaut le coup, entre guillemets.
Donc ça vaut vraiment le coup. Maintenant, il y a d'autres traitements, effectivement, qui sont même ordre de prix, si vous voulez, et dont les bénéfices sont beaucoup moins importants, où on parle de gains en survie de quelques mois et parfois même de quelques semaines, si vous voulez. Donc là, effectivement, il y a sûrement un travail à faire sur
qu'est-ce qui vaut le coup et
la relation entre le bénéfice du médicament et son prix.
Fabrice André, vous voulez
rajouter quelque chose ? Je crois que cette réflexion actuellement a vraiment lieu en France, c'est-à-dire faire une sorte de hiérarchie du niveau de remboursement en fonction de la quantité de bénéfices. C'est vraiment une réflexion qui a lieu actuellement en France, qui à mon avis est vraiment importante et qui va donner lieu à des remboursements un peu différents, je dirais, à l'avenir. Donc c'est une réflexion en cours en fonction de notre capacité actuelle à rembourser les médicaments. Mais là encore, je crois qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de discuter de progrès, d'avancer dans la science médicale et d'amélioration potentielle de nos patients à nous. Les problèmes globalement de société, c'est-à-dire comment une société rembourse un médicament et à quel coût, éventuellement, on peut refaire notre émission si vous invitez là-dessus sur ce sujet.
Absolument, on pourra faire. Jean-Luc Pétier, j'ai quand même encore une question à vous poser. Vous êtes installé dans le sud de la France, vous êtes près d'Aix-en-Provence. Vous avez donc bénéficié de thérapies ciblées, on en a parlé. Mais je trouve intéressant qu'on dise aussi que vous bénéficiez d'un soutien psychologique et d'aide, je dirais, sur l'ensemble de la prise en charge de votre cancer. Et vous trouvez que c'est très important?
Oui, tout à fait. Là, j'ai pu bénéficier d'un soutien psychologique à travers le centre ressources qui met à disposition des patients et de leurs familles des informations multiples et qui propose également des activités sportives, ludiques pour accompagner tous ces patients.
Des conseils sur l'alimentation aussi.
des conseils sur l'alimentation et améliorer le quotidien par rapport à cette prise de, à ces effets secondaires en fait, et aussi soutien moral évidemment. La première chose qu'on apprend d'ailleurs, c'est à lever le voile de la peur dès qu'on apprend qu'on a un cancer.
Christophe Letourneau voulait réagir.
Oui, je crois que ce que M. Pelletier soulève est très très important, c'est-à-dire que dans le traitement des patients qui ont des cancers, il y a effectivement le médicament, et puis bon, les approches chirurgicales, la radiothérapie, ça c'est un aspect, mais il y a effectivement tout là, c'est-à-dire le patient lui-même, le soutien psychologique, l'alimentation, le bien-être, et là je crois qu'il y a aussi beaucoup de développement dans ce sens-là, dans nos différentes institutions, et c'est quasiment aussi important que le médicament.
Et j'avais entendu dire qu'Aix-en-Provence, effectivement, il se fait des choses intéressantes là-dessus, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Juste encore une toute dernière question, Jean-Luc Pelletier. Quand il y a des essais, on sait qu'il y a pas mal d'effets d'annonce hein, qu'on voit effectivement dans la presse, mais qui sont aussi parce que nous, on nous dit d'un seul coup qu'il y a une étude absolument formidable. Et comment vous dire, nous, c'est un peu difficile de savoir si l'étude est vraiment forcément très intéressante et à long terme. Est-ce que vous êtes assez au courant de ces essais cliniques, Jean-Luc Pelletier ?
Ben, justement, on voit beaucoup d'effets d'annonce, effectivement, au jour le jour. Entre autres sur l'immunothérapie dont on a parlé. Et il est vrai qu'il est très difficile de faire le tri parmi toutes les informations, sachant que l'immunothérapie, je m'y intéresse essentiellement pour le cancer qui est le mien, c'est-à-dire le cancer du rein. Et il semble que l'immunothérapie, dans ce cadre-là, elle n'est pas très en avance, puisqu'il y a déjà beaucoup de médicaments en thérapie. Voilà, c'est un petit peu...
Ce que vous vouliez dire, c'est important et Fabrice André a envie de réagir. Merci beaucoup hein, Jean-Luc Pelletier d'être intervenu. On vous écoute.
Non, je pense que là, on est vraiment dans le rôle du médecin. C'est-à-dire que M. Pelletier a une maladie, se pose la question, il y a plein d'effets d'annonce, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Je pense que là, le rôle central du médecin, c'est pouvoir classer hein, ces nouveaux médicaments en fonction de ce qu'on peut attendre d'eux, hein, expliquer au patient.
Mais comment ça se passe concrètement ? Le patient, il vient vous voir et il dit « Moi, j'ai lu ça dans la presse et pourquoi je ne peux pas en bénéficier ?» C'est ça ?
Complètement. Donc, le patient a accès à la presse, à tous les effets d'annonce. Il voit son médecin et un des nouveaux rôles du médecin, c'est donner une information claire au patient sur le niveau d'efficacité de tous ces différents traitements, de toutes ces différentes annonces et pouvoir... faire en sorte que le patient ait l'esprit clair sur quelle est la prochaine étape, quel est le médicament le plus prometteur, où est-ce qu'on peut en avoir accès. Donc là, il y a vraiment un rôle central du médecin dans une vraie relation médecin-patient. Là, on n'est plus dans une question de santé publique. C'est le médecin doit avoir un rôle majeur dans l'information de qu'est-ce que le patient peut attendre des nouvelles thérapies et où est-ce qu'on peut les trouver aussi.
C'est ça, c'est ça. Et combien de personnes en ce moment en France ont accès à ces thérapies ciblées, à celles qui sont sur le marché ? Je ne parle pas simplement des essais cliniques, parce que je pense que c'est encore faible comme nombre, non ? Vous avez des chiffres ou pas ?
Vous dire, les médicaments qui sont sur le marché, comme me disait le professeur André, il y a des référentiels, etc., et puis qui sont globalement bien suivis. Donc ça, les patients
ont accès. Ah, parce que sur le marché, on y a accès, entre
voilà,
guillemets.
Et puis c'est remboursé, etc. Donc voilà, il n'y a pas de problème de financement non plus. Hein, c'est remboursé à 100%. Maintenant, pour les médicaments en développement, là, je crois qu'il y a un gros effort également de l'INCARN, l'Institut National du Cancer, qui a labellisé des centres répartis partout en France qui ont effectivement l'autorisation de réaliser des essais cliniques avec des nouveaux médicaments.
Oui, c'est pas qu'à Paris, c'est pas que la région parisienne.
C'est pas du tout qu'à Paris. Donc il y a des centres partout en France et il y en a une vingtaine. Et donc là, la labellisation a eu lieu encore récemment. Et donc les patients ont forcément un centre qui peut quand même être distant de là où ils habitent, hein, parce que c'est pas forcément toujours à 5 km. Mais bon, dans leur région où ils auront accès à l'innovation thérapeutique. Maintenant, il est certain qu'il y a des protocoles qui sont ouverts dans certains centres et pas dans d'autres, et qu'il y a des patients qui parfois se déplacent pour aller dans ces centres où il y a un essai thérapeutique bien particulier qui est ouvert avec un médicament que l'on pense être prometteur, mais là, on en revient à ce que disait le professeur André, on pense que c'est prometteur, mais ça n'a pas encore été démontré. C'est de la recherche clinique, tout ça, et il n'y a pas encore de preuves définitives.
Il y a Alia qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Alia, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup hein, d'avoir attendu pour intervenir. Ça fait un moment que vous êtes en ligne avec vous. Et si j'ai bien compris, vous avez bénéficié d'un traitement ciblé en Afrique du Sud.
Exactement.
Racontez-nous.
Je vous remercie déjà d'avoir retenu ma question. Bonjour. Moi, j'ai eu un cancer du sang en 2007 si, bon, la première information, quand on vous dit que vous avez un cancer, je peux vous dire que c'est tout s'écroule autour de vous. Vous avez des enfants, vous pensez tout de suite qu'il va s'en occuper. Et je suis partie, j'étais en Afrique du Sud pour le traitement. Donc j'ai subi l'opération et le lendemain, je vois l'oncologue. Et bien avant ça, je vais juste dire quelque chose parce que ça m'est paru après très important. J'avais vu trois ou quatre oncologues qui tous m'ont posé la question quand ils ont vu que j'étais suivie, j'avais régulièrement des examens et à un moment donné, je me rends compte que j'avais une fibrosis qui est plus que la normale. J'appelle la première personne qui suit mon dossier, qui me dit que quand est-ce que vous arrivez en France, j'étais à tel moment et on regardera. Et quand j'ai vu après, quand on a découvert, on a suspecté sérieusement qu'il y avait un cancer, j'ai vu des oncologues. Et chaque fois que j'avais vu un oncologue, la première question qu'il me posait, c'est est-ce que vous prenez la TSH ? La TSH, vous savez, c'est la pilule qu'on prend.
Le traitement hormonal substitutif.
Après.
THS.
Voilà. Et donc, il est très confortable parce que vous restez assez actif.
Et on vous a dit, vous, qu'il y avait un lien. Je ne sais pas si un de vous deux veut réagir là-dessus. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le traitement hormonal substitutif et le développement de cancer, Fabrice André ?
À titre individuel, chez une patiente donnée, il est extrêmement difficile de dire quelle est la cause et est-ce qu'un agent a causé le cancer. Ce qu'on sait d'un point de vue épidémiologique, c'est que l'acte de prendre un traitement substitutif augmente un petit peu, mais significativement, le risque de faire un cancer du sein. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une population, ça augmente un petit peu le risque. À l'échelle individuelle, on ne pourra pas dire à Alia, c'est ça qui a fait que vous avez eu un cancer du sein.
Et le traitement qu'a reçu Alia là, quand elle part de l'Herceptin, c'est effectivement un traitement ciblé, Fabrice André ?
Alors ça, c'est l'illustration typique du traitement ciblé, dans le sens où... c'est un traitement, c'est quoi ? Donc c'est un anticorps monoclonal, donc ça bloque une protéine spécifiquement. Donc c'est un traitement ciblé. Cette protéine s'appelle HER2. D'accord ? Et pour que ce soit efficace, pour que le traitement soit efficace, il faut que le cancer surexprime et la présence de cette protéine. Donc en fait, c'est l'illustration typique de la thérapie ciblée parce que c'est un traitement donc spécifique, mais qui marche uniquement lorsqu'il y a la protéine, ce qui veut dire qu'il faut faire un test diagnostique
pour savoir si ça marche.
Pour savoir si la patiente pourra en bénéficier. Mais lorsque le test diagnostique est positif, alors le bénéfice est extrêmement important.
C'est ça. Donc on fait partie là, des thérapies ciblées dont on parlait tout à l'heure, qui marchent entre
guillemets
vraiment très, très bien.
C'est l'illustration typique de la thérapie ciblée.
Et ça, c'est un traitement qu'il faut prendre. On a parlé tout à l'heure des thérapies ciblées, on l'a vu avec le patient Jean-Luc Pétier, au long cours. Est-ce que c'est le cas là ou au contraire, c'est entre guillemets momentané ?
Alors, ça dépend de chaque patient. Patiente, oui. Il y a des patients pour lesquels on peut donner un an, et il y a des patientes pour lesquelles il faudra le donner tout le temps. Et si jamais, à un moment donné, c'est plus suffisant, ben on changera pour d'autres médicaments.
Alia, juste encore une question. Pour tout ça, à la fois, je dirais, les examens, le traitement et tout, vous avez été obligée d'aller en Afrique du Sud parce qu'il n'y a pas ça à Kinshasa, en RDC.
Exactement. Même en Afrique du Sud, quand on m'avait dit que j'allais avoir droit à un traitement ciblé, on m'a parlé des bienfaits de ce traitement. À côté de ça, on m'a dit aussi que c'est un traitement qui n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui avaient le cancer du sein, qui pouvaient, comme moi, avec le HERD, mais elles n'avaient pas droit parce que ça coûtait trop cher.
Et justement, je ne voudrais pas être indiscrète, mais ça vous a coûté combien ?
Je ne sais pas, j'ai plus là les informations.
Mais ça vous a coûté très cher.
Une assurance qui a couvert à 100%.
Ah, vous avez une assurance
j'ai une assurance qui a couvert. Mon assurance est relativement intéressante, qui a couvert. Mais je pense que pour les gens qui n'avaient pas d'assurance, c'est des traitements qui sont très coûteux.
C'est ça, totalement inabordable. Merci beaucoup, Alia, pour ce témoignage. Et bon courage à vous, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On arrive à la fin de cette émission. J'avais encore deux questions à vous poser. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le travail de l'INCa, l'Institut National du Cancer en France, qui facilite la coordination des essais, c'est ça, Fabrice André ?
L'Institut du cancer, pour nous, c'est indispensable. D'accord ? C'est-à-dire, si ça n'existait pas, l'avis des patients, l'avis des médecins et des chercheurs serait complètement différent. Donc l'INCa, il fait quoi ? Institut national du cancer, il coordonne les différents acteurs impliqués dans la recherche, le soin, l'éducation, la prévention du cancer. Et il permet Donc de la mise en œuvre d'actions et d'une politique, c'est-à-dire d'un plan cancer, qui permet d'atteindre des objectifs en termes de soins et de recherche. Donc ça, c'est indispensable pour nous.
Et dernier point dont vous vouliez parler, c'est la place du médecin dans les soins. C'est absolument capital.
Oui, effectivement, c'est ce qu'on a répété plusieurs fois, mais la place du médecin est capitale pour orienter le patient et puis pour lui délivrer l'information nécessaire sur son traitement et sur ce qu'on va faire et sur les possibilités thérapeutiques. Ce qui est important aujourd'hui en cancérologie, c'est de comprendre que maintenant, le médecin tout seul n'est pas suffisant. C'est-à-dire que on travaille avec des anatomopathologistes qui étudient la tumeur au niveau du microscope, mais maintenant, on a des gens qui travaillent sur les plateformes de séquençage, on a des bioinformaticiens, et c'est réellement maintenant un travail multidisciplinaire avec les chirurgiens également et les radiothérapeutes.
Vous parlez de réunion de concertation pluridisciplinaire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le médecin n'est plus tout seul en face de son patient à réfléchir ce qu'il va faire. Voilà, il y a non seulement les autres intervenants médecins, chirurgiens et radiothérapeutes, mais également les gens des plateformes, donc en pathologie ou les plateformes de séquençage, etc.
Merci beaucoup Christophe Letourneau. Vous nous viendrez nous parler des résultats de votre essai Shiva, parce que j'ai donc bien compris que ce qu'il fallait, c'est parler après des résultats, de savoir si ça marchait bien. Vous, Fabrice André, de résultats de l'étude Saphir. Hein, c'est bien ça, il faut à chaque fois voir les résultats pour savoir si vos thérapies ciblées fonctionnent. Si bien demain, on va parler d'un tout autre sujet, on parlera des troubles de l'éjaculation. Vous savez, une fois par mois, le docteur Catherine Solano répond à toutes vos questions. Vous pouvez bien sûr nous appeler, vous êtes déjà nombreux d'ailleurs à le faire, au 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.